Donc nous accueillons ce matin Arnold de Magdelaine et qui va nous parler donc des logiques compétences en formation, une animation multidimensionnelle des environnements d'apprentissage et qui va nous témoigner de la mise en œuvre de l'approche par compétences dans l'établissement dans lequel il travaille.
Bonjour à toutes et à tous encore une fois, merci pour l'invitation. Merci beaucoup et puis je suis ravi de retrouver des amis, des personnes avec qui je partage des compétences, parfois des personnes qui ont été des mentors, mais après, vous savez tous qu'on est tous amenés à donner sa propre forme. C'est le but, en tout cas, on est de la formation aux compétences. Donc, en tout cas, voilà ce que je vous propose, c'est de partager une expérience avec vous, vécue à l'école des hautes études en santé publique, le HESP, donc, qui se trouve à Rennes. Tout le monde connaît le HESP ? Oui ? Non, ça va ? Ok. L'école qui forme notamment des professionnels en santé publique, et qui forment soit des hauts dirigeants, soit des métiers d'inspection, des métiers de contrôle. Ça va du génie sanitaire jusqu'à l'administration des politiques, comme ça va de l'éducation à la jeunesse, jusqu'à finalement des dirigeants, des hauts fonctionnaires. Donc avec ce panel, ces différents professionnels, ce que je vous propose, c'est donc de narrer avec vous. Alors je vais jongler, je vais tenter d'équilibrer, puis il y en a qui me feront signe si jamais c'est nécessaire. Quand je fais trop de narration, vous me faites des signes et je passerai en praticien réflexif. Comme ça, et puis j'essaierai de rééquilibrer par moment, et on va jongler de cette façon-là ce matin. Alors, dans un premier temps, en tout cas, je voulais contextualiser l'approche compétences à l'école. Moi, j'ai été recruté en tant que chargé du développement pédagogique en 2009, avec une mission spécifique qui était que les formations fonction publique, donc toutes ces formations pour lesquelles vous accédez avec un concours, eh bien, passent sur ce qu'ils appelaient à l'époque une logique compétence, un système compétence. Alors, il y avait déjà eu énormément de travaux avant moi, des personnes qui s'étaient déjà emparées du sujet à l'EHESP, pour n'en citer que quelques-uns, Christian Chauvigné et Marc Nagels, qui ont lancé, qui ont amorcé finalement la mise en place d'un système compétences au sein de l'établissement. Le but étant, et vous l'avez bien compris, qu'à un moment donné, aller sur une logique compétences à l'EHESP, le but était véritablement de faire de l'accompagnement à la transformation. Comment faire en sorte que finalement on forme aux compétences en santé publique de manière la plus adaptée possible et en quoi les compétences pouvaient être au service finalement de cette école qui potentiellement avait la possibilité en tout cas eh bien, de générer des futurs professionnels sur le terrain qui allaient devoir agir. Donc avec ces personnes-là et depuis entrée en thèse moi-même, on s'intéresse à l'élaboration d'une méthode d'intervention et il est vrai que d'implémenter un système compétences au sein de l'école, c'est aussi une manière de travailler sur soi, son rapport à l'autre et à l'environnement, notamment en santé publique, en ce qui nous concerne. On aura l'occasion d'y revenir. Alors, très rapidement, voilà ce qui se passe un petit peu à l'école et parfois dans la tête à peu près organisée d'un apprenant, d'un enseignant, d'un professionnel, d'un politique de l'école, logiquement, à peu près, des interactions qui sont censées exister, en tout cas prendre conscience, et sur lesquelles on doit s'interroger pour former aux compétences. Vous voyez d'ores et déjà la dimension multidimensionnelle très présente, puisqu'il s'agit dès maintenant à la fois d'identifier un certain nombre d'acteurs, parfois même on parlera d'auteurs, d'apprentissage, comme des personnes qui vont animer ces apprentissages, comme ces personnes qui vont devoir donner à lire et à comprendre sur le terrain les apprentissages en étant passés notamment par l'école. Ce qui m'amène forcément à une interaction que vous connaissez très certainement, d'influence bandurienne, à devoir s'interroger sur l'ensemble de ces dimensions pour former aux compétences à l'école. Ce qui fait qu'on a essayé, et on le verra tout à l'heure, eh bien de conceptualiser aussi un modèle mental d'organisation collective de la formation par les compétences. Pour être le plus performant possible, nous-mêmes en tant qu'école, dans la capacité à générer et à créer des conditions favorables à la formation, aux apprentissages, notamment situés, expérientiels, afin que l'on puisse tester au sein de l'école, mais aussi avec des partenaires en dehors, la capacité à se mettre en mouvement ou à agir. Alors, le système compétences en formation de l'HESP, c'est aussi un moyen, et vous le savez, l'école est un superbe espace potentiel pour accompagner le développement d'une activité existante. Et notamment en allant dans le système compétences, il y a vraiment une dimension qui est liée à la transformation. Parfois, les transformations nécessaires et utiles, on y reviendra. Cette chance que l'on a d'avoir un espace potentiel, des collectifs sociaux d'interaction qui peuvent faire le lien entre la production d'expertise, notamment chez nous en santé publique, la recherche en santé publique, et proposer un espace de formation en santé publique, eh bien ça devient un beau magma censé faciliter en tout cas la découverte de nouvelles ressources, la création de nouvelles ressources, le développement de ressources existantes, et surtout travailler sur leurs usages, ensuite, situés. L'acceptabilité a priori de nouveaux usages, bah oui, parce qu'en passant par l'école, on verra certainement qu'on accueille sur la logique compétence des partenaires externes qui eux aussi finalement entrent en formation continue quand on les accompagne à la formation aux compétences pour animer leur propre session, leur propre cours, donc on aura l'occasion d'en discuter aussi. Et puis l'analyse réflexive, oui, on verra qu'en ayant un système compétences au sein de l'école, tout le monde se met à... Enfin, tout le monde, pardon. On crée des conditions favorables à ce qu'un certain nombre de professionnels mettent en tension leurs expériences pour donner du sens à l'action, notamment de formation, à l'action en santé publique, et ainsi de suite. Ouais, je sais, je vous prends un peu à froid quand même, pour le coup, mais ça va, pour le moment. C'est bon ? Ok. Tout ça pourquoi ? Je voulais évoquer, aujourd'hui en santé publique, on a un vrai sujet, on vit dans un écosystème. Donc de former sur les compétences, c'est aussi amener les personnes, aussi bien qui viennent, qui interviennent dans l'établissement que les personnes qui vont sortir de l'établissement et être formées aux compétences, c'est faciliter notamment les prises de décision et les prises de responsabilité. C'est-à-dire que de les accompagner, notamment par l'intermédiaire de l'analyse de l'activité, c'est en capacité de se donner suffisamment confiance en soi pour pouvoir agir ou transformer des situations existantes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la question de la prise de décision, de la prise de responsabilité est un sujet récurrent au sein de l'établissement, notamment par nos enquêtes que l'on fait suite au passage à la formation, où on constate que les personnes n'ont pas suffisamment, et elles l'expriment, pas tout le temps, de moins en moins, heureusement, de moins en moins, sur cette capacité à pouvoir agir dans l'environnement dans lequel ils arrivent suite à leur passage à l'école, ou suite à leur retour de l'école, quand on parle de professionnels en formation continue. Et donc nous, nous essayons de créer des conditions favorables à ce que déjà ils puissent manipuler, utiliser ces ressources à l'école, ou dans un cadre, un parcours, un programme, un accompagnement spécifique de l'école. Donc ça, c'est vraiment un enjeu important pour nous. Tout ça, c'est ce que je viens d'évoquer dans la logique de recherche, d'articulation entre recherche, formation et production d'expertise. De façon, aujourd'hui, à traiter trois sujets un peu phares en santé publique, notamment, que sont l'interprofessionnalité, les usages de technologies de l'information et de la communication en santé, et enfin, la question de l'animation territoriale. Donc, à travers ce modèle-là, il est vrai que on se pose la question en continu de développement des compétences en santé publique et comment est-ce que l'école a donc son rôle à jouer en ayant cette possibilité d'accueillir autant d'acteurs et autant d'auteurs finalement de ressources en son sein et d'usage de ressources en son sein. J'ai mis développement des compétences en santé publique. On pourrait même évoquer la création d'une didactique des compétences en santé publique. C'est un sujet en tout cas sur lequel on s'intéresse énormément. Alors, je viens de vous contextualiser le propos par rapport à l'HESP, et il est vrai que mon propos ensuite qui va s'articule de la façon suivante, c'est-à-dire que je vais me balader forcément sur différents niveaux d'intervention de l'école, que ce soit au niveau de la stratégie, de la politique sectorielle de formation en santé, que ce soit au niveau des systèmes de l'organisation, ou que ce soit au niveau des modalités d'accompagnement ou des micro-systèmes qui vont animer l'organisation de formation, pour le coup. Donc aujourd'hui, eh bien, on va être par moment, dans nos discussions, certainement dans vos questionnements ou dans mon propos, orienté spécifiquement sur les dispositifs d'accompagnement. Ou bien on va être orienté sur le lien entre un angle, un parti pris, un angle d'attaque en tout cas, autour des stratégies et des politiques sectorielles de formation. On va prendre un parti pris au niveau de l'organisation ou du système que l'on met à disposition. En tout cas, moi ce que je vais vous demander, c'est un peu comme les Ménines de Velázquez, pour ceux qui sont moins réveillés, la vache qui rit et ses boucles d'oreilles. En fait, cette capacité à se mettre un peu en méta, en mise en abîme, et c'est vrai que un des enjeux à l'école, véritablement, est d'avoir utilisé l'analyse de l'activité, a permis, sincèrement, d'apprendre à s'observer pour agir, soit différemment, soit pour consolider, en tout cas pour guider l'action, pour orienter l'action. Et l'enjeu du chargé du développement pédagogique que j'étais, était de toucher tous ces niveaux d'intervention, à la fois au niveau stratégique. Aujourd'hui, la logique compétence est inscrite dans le contrat d'objectifs et de performance de l'école. C'est un engagement que nous avons avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Santé, puisque nous avons une double tutelle. C'est s'engager également à le décliner dans l'organisation, ce qui fait que les professionnels qui animent la formation à l'école, eh bien, se servent aussi de ce contrat d'objectifs et de performance pour pouvoir entreprendre, pour pouvoir développer, pour pouvoir évaluer. Et c'est aussi un engagement pour l'ensemble des partenaires, des apprenants, de l'ensemble des protagonistes de la formation, que de vivre finalement l'approche par compétences dans les dispositifs. Je continue ? Ok ? Je vous tiens ou je vous ai déjà perdu ? C'est bon ? Ouais, avec plaisir. C'est une bonne question, mais je pense qu'à un moment donné, quand... Pensez bien que non, sinon j'aurais pas eu de travail. Non, mais on coupera pas ça. Hein. J'assume tout à fait. Non, il est vrai que quand à un moment donné, une institution, sans l'avoir inscrit dans un document de cadrage, comme vous venez de l'évoquer, mais qui déjà s'interroge sur le recrutement de professionnels qui vont devoir le mettre en place, on peut considérer qu'il y a déjà des repères d'action qui se sont institutionnalisés et qui s'autorisent à créer des professions instituantes, c'est-à-dire capables de, voilà, d'aller transformer le quotidien, capables d'évaluer le quotidien pour pouvoir agir différemment. Donc, bon, c'est mes références à Louro pour le coup sur ce phénomène-là. Donc non, ce n'est pas nécessaire pour agir sur l'approche compétence, l'approche programme, mais là c'est l'approche compétence sur laquelle je vais aller. On aura l'occasion peut-être d'en discuter. Mais il est vrai que d'avoir un document de cadrage, c'est peut-être temporellement, un indice fédérateur, quand même, c'est quand même le contrat d'objectif et de performance, facilitant en tout cas la mobilisation collective autour d'un objet partagé. Je dirais qu'une des limites, souvent, que l'on a, et on l'évoquera avec les référentiels de compétences, c'est qu'en fait, ils ne sont pas interrogés. Ou alors, on n'a pas de critères d'évaluation qui, finalement, les amènent dans un développement continu à la fois du propos comme de son usage. On aura certainement l'occasion d'en discuter tout à l'heure dans la mise en pratique. Une philosophie de l'apprentissage, je voulais évoquer ça avec vous parce que, d'influence, en tout cas aujourd'hui, j'espère continuer à grandir, plutôt sur Varela, Maturana, sur l'inaction, plutôt sur Paulo Freire, sur la question de l'émancipation, du rapport à l'autre, la capacité à construire ensemble, et ainsi de suite. Je vous renvoie, c'est un peu tout ça moi qui m'anime, notamment en ce moment. Et c'est aussi la question de dire, mais pourquoi faire le système compétence si c'est pour rester tout seul en tant que chargé du développement pédagogique, dont tout l'enjeu, à un moment donné, philosophiquement, était de créer un intérêt autour de la communauté pédagogique, mais aussi autour de l'école, parce que je parle de communauté pédagogique, mais vous le savez très bien, le personnel administratif va contribuer forcément à la mise en mouvement, à l'animation des documents, à son utilisation. Les services qu'on va mettre à disposition, comme les services technologiques ou les services techniques, vont permettre finalement aussi de... contribuer à cette communauté. Alors après, je ne suis pas là pour catégoriser, je suis là pour vous dire qu'en fonction de votre expérience et puis de ce que vous recherchez comme but, aujourd'hui, vous pouvez choisir d'aller dans telle ou telle case. Est-ce qu'à un moment donné, autour du système de compétences, vous voulez susciter une communauté de pratique ? Est-ce qu'à côté, vous voulez susciter une communauté d'apprentissage ? Est-ce que vous voulez passer de l'un à l'autre ? Est-ce que vous voulez créer un réseau d'échange ? L'intérêt, il n'est pas de se dire, nous, on veut être ça. Je crois qu'aujourd'hui, l'intérêt est de se dire que quand on organise un système autour des compétences, eh bien, c'est de pouvoir jongler sur ces différents, en tout cas, mouvements de collectifs sociaux en interaction pour pouvoir se mettre en mouvement. Donc, il y avait un véritable enjeu à ce niveau-là. Il y avait aussi l'enjeu que je vous ai déjà évoqué, je ne reviendrai pas dessus, sur le développement continu des compétences, c'est-à-dire avoir une capacité, finalement, à susciter ou à créer des conditions d'apprentissage favorables au développement des compétences en santé publique, tout en prenant en considération un certain nombre de... de champs de référence ou de secteurs, on l'a déjà évoqué ensemble. Un parti pris aussi à l'école, c'est l'influence de la didactique professionnelle. Donc il est vrai qu'aujourd'hui, c'est une influence parmi d'autres, en tout cas, qui nous permet de construire un certain nombre de formations et dans lesquelles l'école aujourd'hui, collectivement, se retrouve assez aisément pour pouvoir agir ensemble. Donc on est sur une influence didactique professionnelle. Vous avez discuté sur la logique compétence, vous avez déjà travaillé avec notamment Jean-Claude sur les définitions des compétences. Souvent, un des enjeux qui est assez fondamental, mais ça faisait partie du résumé qui vous a été envoyé pour préparer la journée, les définitions sont tellement pléthoriques, elles sont tellement plurielles, que finalement, est-ce qu'un des enjeux n'est pas de se donner sa propre définition dans l'établissement pour pouvoir agir, en tout cas déjà à minima, déjà se mettre en mouvement ? C'est-à-dire créer des espaces de traduction, créer des espaces où on va créer ensemble une définition, créer ensemble un ensemble de ressources autour des compétences, et ensuite expérimenter, tester, et puis s'entourer. Je dirais, de chercheurs ou de professionnels pour interroger cette définition des compétences. Ça a été un des enjeux en tant que chargé du développement pédagogique aussi, de devoir, à un moment donné, avec le travail de mes prédécesseurs, un petit peu cristalliser. Aujourd'hui, c'est interroger un certain nombre d'éléments sur lesquels on pourra revenir si cette définition, bien évidemment, vous interpelle. Je pense qu'elle est plutôt dans la mouvance de ce que vous avez vu hier, mais après, chacun se positionne. Et donc, on aura peut-être l'occasion d'en discuter ou de mettre ça en tension. Alors, c'est vrai que c'est une philosophie de l'apprentissage. On est plutôt sur la structuration des ressources pour agir, de ressources potentielles. On n'est absolument pas dans simplement l'assimilation. C'est vrai qu'aujourd'hui, un des enjeux aussi, que ce soit avec les apprenants, que ce soit avec les partenaires externes, des professionnels qui viennent pour, en tant que tuteurs, qui sont maîtres de stage, c'est les termes qu'on utilise chez nous, ou des intervenants externes qui sont recrutés, parce que vous le savez, peut-être pas, les personnes qui enseignent à l'EHESP sont certes des maîtres de conférences, mais aussi des professionnels en détachement, sur 3 ans ou 6 ans, généralement. Donc, il est vrai qu'il y a tout un travail autour du développement pédagogique aussi, les concernant, et l'analyse de l'activité, les concernant également. Et c'est vrai que de faire la différence entre information, enfin données, information, connaissances et savoirs dès leur arrivée, c'est quand même un des enjeux, notamment pour qu'ils soient plus centrés simplement sur l'activité d'enseignement, mais bien sur un équilibre entre leur propre activité, dans laquelle ils vont se déterminer, mais l'activité également d'apprentissage, c'est-à-dire créer les conditions favorables à pouvoir former aux compétences en santé, notamment dans une discipline, dans un secteur, et ainsi de suite. Donc c'est vrai qu'il y a un véritable intérêt à travailler sur la capacité à structurer des ressources dans la logique compétence qu'on vient d'évoquer. Trouver un équilibre aussi entre logique de situation et logique de contenu. Il est vrai, et d'ailleurs je suis un bel exemple ce matin, qu'on est souvent dans une logique d'exposé, mais ce qui va faire la richesse finalement d'un environnement d'apprentissage, c'est la capacité à ce que la personne qui est auteur de l'événement, les personnes qui sont auteurs de l'événement, vont générer un certain nombre de modalités pédagogiques. Un bel exemple ici, jongler entre l'exposé pour accueillir doucement le matin le retour finalement conceptuel de l'action et ainsi de suite. Et puis pourquoi pas une belle création collective qui va suivre en atelier, il me semble, après cette intervention et les échanges. Donc logique de contenu, logique de situation, c'est aussi les accompagner sur l'approche compétence à transformer leur propre représentation de ce qu'était un intervenant, car souvent ils sont sur un modèle d'exposé débat et peu finalement sur la création de... je dirais, d'animation, de session ou d'atelier autour des mises en situation, pour le coup. Donc, rééquilibrer un peu tout ça avec la logique compétence, ça nous a paru plus aisé. L'analyse de l'activité, oui, le modèle de Jean-Claude peut se transcrire en réel. C'est une boutade parce que on a souvent, enfin, les retours que l'on a parfois sur les modèles conceptuels, c'est de se dire, bah oui, mais pour une production d'expertise, pour une photo, ok, très bien, mais alors pour se mettre en mouvement, on fait comment derrière? C'est très pragmatique, ça, selon moi. Après, l'intérêt est de le rendre utilisable à différents niveaux d'intervention qu'on a évoqués tout à l'heure. Une stratégie, une politique, personne qui est responsable d'un dispositif, d'un système de formation, jusqu'aux apprenants. Et donc tout l'intérêt d'être allé sur le système compétences est d'avoir rendu finalement, notamment ce modèle MADEC, utilisable par l'ensemble des protagonistes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un des enjeux, c'est quand même que les personnes qui passent par l'école ou qui repassent par l'école aient cette capacité, en tout cas, de pouvoir structurer l'analyse de l'activité. C'est un modèle parmi d'autres, mais c'en est un, en tout cas, dont on fait le maximum pour que, quand ils sortent de l'établissement, ils soient en capacité, en tout cas, d'analyser, entreprendre. C'est un enjeu et c'est un parti pris que l'on assume totalement. Notamment, dans quel but l'analyse de l'activité, on va créer des conditions autour de l'explicitation. Je suis, pour le coup, ben voilà, Pierre Vermerge, tout ça, ça vous parle aussi. Je ne reviens pas sur les concepts qui l'animent, mais on est vraiment sur une logique, par l'analyse de l'activité, de la prise de conscience. C'est vrai que de créer finalement un espace où les personnes vont arriver et s'autoriser à se regarder sont rares. Le rencontrer des professionnels de santé, dirigeants, qui à un moment donné vont s'autoriser avec un management calendaire à se dire « Ah bah tiens, si je faisais de l'analyse réflexive mardi entre 14 et 15 heures », ça paraît totalement, c'est vraiment intéressant parce que ça leur paraît totalement absurde et ça ne sert à rien pour beaucoup d'entre eux. Or finalement, ce qui est intéressant, c'est que un des enjeux aussi, c'est de pouvoir potentiellement amener à une logique plutôt efficace de ce que peut susciter l'analyse de l'activité, prendre le temps de se regarder, de s'interroger dans son rapport à soi, à l'autre et l'environnement. toujours dans cette logique, encore une fois, de mise en mouvement avec l'expérimentation. Il est vrai que de prendre conscience, de comprendre, d'être capable de l'expliciter, enfin, de l'analyser, si derrière, on reste sur un état de fait, est-ce que ça vaut le coup ? Peut-être parfois. Mais est-ce que c'est suffisant dans tous les cas ? On peut s'interroger. J'y crois, Mordicus, qu'à un moment donné, de réfléchir sur soi et encore une fois sur l'analyse de l'activité va susciter ça. C'est aussi participer à un développement continu. C'est aussi s'autoriser à finalement s'ouvrir et c'est aussi s'autoriser finalement à être dans une logique d'adaptabilité, voire d'anticipation. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, le système de compétences tel qu'on a pu le mettre à l'école, en tout cas, tend vers ça. En fait, alors, sur l'approche compétence, que tu as utilisé l'approche programme, mais après, je ne reviendrai pas... Mais non, parce que je comprends ta question. Pour le coup, ce qui est intéressant à l'école, c'est qu'il y a certes un socle de personnes permanentes, mais aussi beaucoup de mouvements en matière d'intervenants, de personnel, et ainsi de suite. Donc oui, on a plutôt intérêt à s'interroger sur un système qui va générer ce type, finalement... de situations, d'actions individuelles, de relations interindividuelles, d'organisation, voire de politique ou d'idéologie, de valeur, plutôt que de se dire, voilà, en one shot, on fait ça une fois et on ne vérifie pas derrière. On est plutôt dans une logique de continuum au niveau du système et de l'organisation, plutôt que sur une logique simplement d'un one shot. Mais c'est tout ça ensemble. C'est un système dans lequel, à un moment donné, on va avoir des actions ponctuelles et puis on va tenter de le générer par du compagnonnage, la fonction tutorale, une politique en management des ressources humaines, une politique en matière de stratégie de formation. Enfin, voilà, c'est toutes ces dimensions-là qui ensuite vont devoir se semer. Quand je disais qu'aujourd'hui, voilà, la logique compétence touchait tout le monde, ça va effectivement jusqu'à la politique de management des ressources humaines des enseignants que d'aller sur une logique compétence qu'on souhaiterait dans ces cas-là incarner aussi dans notre propre organisation en tant qu'établissement. Ça, c'est un bel enjeu aussi, pour le coup. C'est la fameuse mise en abîme qu'on évoquait tout à l'heure, ou loop input, parfois comme le nomment nos collègues, un collègue gallois, pour dire ça comme ça. Donc, sur la question de l'analyse de l'activité, aujourd'hui, vous allez avoir des référentiels de compétences à l'école qui sont systématiquement créés sous cette forme-là, c'est-à-dire que vous allez avoir une classe de situation qui va être décrite avec un certain nombre de repères pour pouvoir catégoriser l'information, et systématiquement... Donc, vous allez avoir un travail voilà, d'explicitation, de création d'un référentiel avec ce modèle-ci que vous avez là. D'ailleurs, au passage, les référentiels de compétences de l'école ne sont pas... ils sont pas discrets. Enfin, ils sont discrets, mais ils ne sont pas interdits à la publication. Si suite, finalement, à la rencontre que l'on a aujourd'hui, un exemple vous intéresse, on peut aussi mettre à disposition. C'est un exemple parmi d'autres de référentiels de compétences. Mais si ça peut vous intéresser, ce sera avec plaisir. Le but étant, comme je vous l'évoquais dans cette logique émancipatrice, que les personnes soient amenées à être aguerries, se sentent suffisamment en confiance pour agir sur les situations existantes, soient capables de repérer des situations emblématiques, soient capables d'en prendre conscience, de les expliciter, les analyser et d'entreprendre, et puis bien évidemment, pouvoir identifier les prises d'informations, identifier de nouvelles relations interindividuelles, en tout cas être en capacité, à un moment donné, de pouvoir jouer sur l'expérience vécue pour pouvoir anticiper, notamment. Je reviendrai dessus plus tard. Ça, c'est ce qu'on a évoqué. Alors, c'est vrai qu'on s'interroge beaucoup. Alors, un parti pris aussi, la question posture et positionnement. Alors, dans l'administration publique, il y a un vrai sujet concernant les postures et le positionnement. D'ailleurs, souvent, on confond les deux. Et quand on est avec nos dirigeants, c'est aussi important avec eux que quand on souhaite manager une organisation, on soit bien au fait, en tout cas, de la différence entre positionnement et posture. Nous, en tout cas, le parti pris que l'on a à l'école d'influence plutôt Trolla, La Meule et Jézégou, c'est que les postures sont les intentions et les croyances qui nous poussent à agir de telle ou telle manière. Et le positionnement est bel et bien, finalement, un niveau d'intervention dans une organisation donnée. Encore une fois, dans la logique de prise de responsabilité qu'on évoquait tout à l'heure, et la capacité à prendre des décisions. Mais c'est vrai que de s'interroger déjà dans le modèle d'analyse de l'activité sur ces différentes notions, c'est aussi une manière de pouvoir rentrer de nouveau dans son établissement avec une autre dimension, et la capacité en tout cas de mettre des mots peut-être plus précis, de pouvoir agir différemment sur ce système-là. Alors, quelques repères d'action très rapidement. Vous l'avez compris, à l'école, je vous ai dit tout à l'heure, j'étais recruté pour faire en sorte que les formations fonction publique passent sous une logique compétence. Souvent, ce qu'on nous dit, on dit, bah oui, très bien. D'ailleurs, pour vous, c'est facile. C'est ce qu'on me dit. Pour vous, c'est facile, car vous avez un référentiel métier décrété. Il est vrai que nous avons un décret de formation, un arrêté de formation, et nous avons des référentiels dits métiers, posés par le ministère, les directions et administrations centrales. Donc on nous dit, bah oui, vous avez déjà un document fondateur qui donne une ligne directrice, un document de cadrage qui finalement va faciliter déjà la prise de conscience de l'activité, en tout cas c'est une prise de conscience de l'activité, ce vers quoi on veut que la formation tende. Et c'est vrai que nous, pour ces formations, le prescripteur, c'est l'État, et nous sommes qu'un opérateur dans ce cadre-là. Simplement, et là, il y a une coquille, je pensais l'avoir mis, référentiel métier, on pourrait mettre des S entre parenthèses. Notamment parce que là, référentiel métier est donc lié à une dénomination étatique, telle que c'est voilà, produit dans le cadre. Mais on pourrait très bien avoir référentiel métier avec des S, notamment quand on s'intéresse à des masters, à d'autres diplômes. Ce que je vous présente là, c'est aussi valable avec des parcours type master, et on a travaillé énormément avec finalement des responsables pédagogiques, des équipes pédagogiques, dans l'idée de définir quels pouvaient être les métiers, les professions pour lesquelles on peut tendre avec la logique compétence. On va s'interroger, on va s'intéresser à l'insertion professionnelle, on va s'intéresser aux observatoires métiers, on va aller chercher des données, on va aller chercher des infos, et on va, dans ces cas-là, les croiser de façon à orienter, d'un point de vue territorial, notre offre de formation. C'est un enjeu aujourd'hui. Hein. La CNCP est quand même très vigilante aujourd'hui sur l'animation territoriale de notre offre de formation. Et donc est susceptible aujourd'hui de refuser un certain nombre de diplômes existants ou à venir, dès lors qu'on ne s'est pas interrogé sur la réponse à un besoin populationnel ou un besoin professionnel sur un territoire donné. En tout cas, c'est un enjeu d'aller sur la logique compétence, même d'un point de vue institutionnel aujourd'hui, puisque c'est forcément commandé par l'État pour valider ou non. Vous voyez, avec toute la logique qui est autour de la réorganisation des parcours au sein de notre université. Alors j'accélère un petit peu. Ce qui compte, et vous l'avez bien compris, ici vous aviez plutôt les modèles de création, c'est-à-dire qu'on part du document qui va guider et l'école, par contre, s'autorise discrètement à construire le référentiel de compétences. Il est vrai que si l'école ne s'autorisait pas à créer le référentiel de compétences, comment est-ce qu'on pourrait tenter, en tout cas, d'avoir à notre discrétion l'ensemble des modalités et stratégies de formation, combien même elles répondent au référentiel métier. L'école, en tant qu'opératrice, doit quand même avoir la main sur la manière dont elle peut créer les conditions favorables à la formation compétences. C'est en tout cas ce qui a été revendiqué. Mais très longtemps, notamment quand je suis arrivé, il y a eu une confusion et l'État pensait qu'on se substituait à lui quand on créait le référentiel de compétences. Alors il a fallu qu'on leur explique que finalement, nous, c'était un contrat. C'est-à-dire qu'on s'engage à créer un référentiel de compétences, le modèle d'analyse de l'activité que je vous ai présenté tout de suite, dans le but de proposer des environnements d'apprentissage pluriel. On décline ensuite le référentiel de formation, de positionnement et de la validation et l'évaluation. On aura l'occasion, peut-être dans les questions, d'y revenir. Ce qui compte, c'est que tout ça, c'est un système. Vous l'avez bien compris, quand on touche à l'un, on touche à tout. Donc forcément, il y a des régulations à mettre en place, donc une comitologie à mettre en œuvre. Donc systématiquement, et vous le savez, on a des comités pédagogiques, mais on a aussi des conseils d'orientation des formations, où là, on va retrouver tous les protagonistes, finalement, de la formation, dans l'animation. Orientation de la professionnalisation, comme orientation scientifique, comme orientation pédagogique. On a deux instances. Donc très pragmatiquement, on a des connaissances générales en santé publique, on a un socle que l'on a identifié, qui doit permettre à l'ensemble des professionnels de santé publique de pouvoir agir sur le territoire. On a de la production scientifique, vous l'avez bien compris. On a une logique compétence qui est en haut en vert, avec tout le système qu'on vient de voir tout de suite. Et on a les documents de cadrage type les syllabus. La logique compétence, comment aujourd'hui elle s'installe? C'est-à-dire qu'on va créer le référentiel de compétences. On va demander à chacun dans les fiches d'unité d'enseignement et dans les fiches séquences, finalement, dans les syllabus, de noter les compétences visées. Dans les séquences, les objectifs d'apprentissage liés aux compétences visées. Vous voyez bien que finalement, le référentiel de compétences, ce n'est pas simplement un document qu'on a pour soi, que l'on garde pour la formation et dire « regardez, voilà le contrat ». C'est un instrument de coordination. C'est un instrument qui sert aussi à mettre de la cohérence. Et c'est en cela qu'à un moment donné, selon moi, j'ose, l'approche programme et l'approche compétence se rencontrent. C'est-à-dire que quand on a scientifiquement, quand on a politiquement, quand on a stratégiquement et d'un point de vue organisationnel orienté les environnements d'apprentissage sur la logique compétence, à un moment donné, ce qui va être intéressant, c'est de le décliner pour voir comment dans la coordination de la formation, eh bien, ça trouve tout son sens. Chez nous, notamment en matière de coordination et de cohérence, ça s'inscrit déjà dans les syllabus. Donc par exemple, vous allez avoir la possibilité d'actualiser finalement le référentiel de compétences avec la recherche en santé publique. Vous l'avez compris, comme on s'appuie sur un modèle d'analyse de l'activité tel qu'évoqué et présenté hier, notamment par Jean-Claude avec le MADEC, on doit questionner finalement des connaissances. Donc l'actualité de la recherche vient animer le référentiel de compétences en permanence, notamment sur les connaissances nécessaires pour agir. Tac, c'est des exemples parmi d'autres. Et le référentiel de compétences qui amène le terrain, finalement, est là pour interroger les connaissances également existantes et la recherche existante. Ce qui fait que finalement, nous créons des espaces, encore une fois, de traduction entre le monde finalement, de la production d'expertise en santé publique, l'univers scientifique de la recherche et finalement les acteurs de la formation qui sont là pour tout mettre en mouvement. L'intérêt finalement de tout cela, de ces logiques compétences, en tout cas à l'école notamment, c'est bel et bien de se faire se rencontrer l'ensemble de ces dispositifs et de finalement réguler tout cela pour former aux compétences le mieux possible. Il y a des choses qui doivent vous parler un petit peu ce matin. C'est toute la... En tout cas, et je finirai là-dessus. En fait, le temps passe quand on est en pleine vocation aérienne. Il est vrai que, en tout cas, la capacité que l'on va avoir pour que collectivement on s'empare de ce sujet compétences, en n'oubliant pas qu'une école a été créée, quand même, pour accueillir à un moment donné des apprenants. La logique compétence a cette subtilité de rappeler à tout le monde qu'à un moment donné, on est là pour former aux compétences. Que l'on soit un service technique, que l'on soit de la logistique, de l'accueil, que l'on soit un enseignant ou autre, en tout cas, à un moment donné, il y a une responsabilité qui est collective pour former aux compétences. Donc il y a aussi cette dimension qui devient de plus en plus présente. Et ensuite, ce n'est pas un mot tabou. Je pense qu'il y a une approche qualité qui est vraiment à développer dans une université avec une approche dite, mettons les deux pieds dedans, cliente, interne et externe. Parfois, on a oublié que si on avait un travail dans nos universités, c'est parce qu'il y avait des apprenants. Et donc, le bout du bout, à un moment donné, c'est quand même que cet espace potentiel soit là pour former aux compétences et continuer à développer notre société. Voilà. Merci beaucoup.
Est-ce que tu pourrais revenir dans le modèle d'analyse, là, dans le positionnement, dans les différents référentiels, sur le référentiel de positionnement? Oui. Est-ce que tu peux un petit peu expliquer en quoi ça consiste et quelles sont les interactions multiples de ce référentiel-là avec les autres?
Je vais partir de celui-ci, d'accord? Oui, en fait, donc le référentiel de positionnement, c'est un système en permanence d'identification de la montée en puissance de l'apprenant dans le parcours de formation. C'est-à-dire que le système de positionnement, il est décliné directement du référentiel de compétences. On va avoir cette logique, finalement, de... Alors, certains vont utiliser un e-portfolio, d'autres vont utiliser les principes de portefeuille. Nous, le positionnement, c'est un dispositif d'accompagnement et d'évaluation, en fait, je dirais, de la montée en puissance de l'apprenant durant tout son parcours. C'est-à-dire que le référentiel de compétences est là pour guider ce vers quoi on a contractualisé avec l'apprenant, sur vers quoi on doit le former. Et lui, tout au long de son parcours, va être capable de se positionner. Donc de se positionner sur l'ensemble des tâches qu'on peut attendre de lui par la suite, la performance attendue à minima, avec toute la discussion que vous avez pu avoir hier, les usages de connaissances, et en tout cas c'est lui qui va se responsabiliser aussi dans son propre apprentissage, il va se donner sa propre forme, c'est la logique dans laquelle on l'a créé, mais on responsabilise aussi l'ensemble des protagonistes, car on met en place un système dit d'accompagnement. Et c'est aussi l'occasion de faire venir des professionnels dans une logique tutorale. Donc c'est aussi l'occasion de travailler avec des gens qui sont sortis de l'école, de les faire revenir, les faire travailler sur l'analyse de l'activité. On va les former à l'entretien d'explicitation. On va continuer. Et en fait, ça devient, selon moi, vertueux. Mais en tout cas, la logique de positionnement, c'est peut-être... Enfin, ici, c'est fondateur. Tout à sa place ici a vraiment une valeur ajoutée. Mais sur le référentiel de positionnement, on est quasiment sur une logique d'animation. C'est ce qui va donner vie, finalement, à lire et à comprendre, finalement, que ce soit pour l'apprenant dans son apprentissage, pour son parcours, que ce soit pour l'ensemble finalement des acteurs qui participent au dispositif et à l'environnement d'apprentissage, c'est un des plus beaux dispositifs à animer et un des plus complexes aussi en matière d'analyse sur les effets. Car ça, c'est ce que vous allez avoir du mal généralement à financer. Très concrètement. Parce qu'on va vous dire, bah, vous faites venir des gens, mais c'est quoi les effets? Et puis les élèves ne voient pas tout de suite les effets d'un entretien d'explicitation, d'analyse de l'activité, pour se donner sa propre forme. Ça, c'est un vrai sujet en soi, à défendre. Il y a plusieurs dispositifs qui ont failli disparaître d'accompagnement dans l'école. Il a fallu les... Mais en même temps, c'est bien que ce soit interrogé. Ça permet d'évaluer, ça permet d'observer et de développer le dispositif. En tout cas, voilà, je réponds de manière concise.
Il y a un sens pour tous les métiers.
Oui.
Tous les métiers, on a
oui.
Voie, mais
oui. Oui. Pour toutes les formations dites fonction publique, c'était ce système-là. Alors, je dis c'était parce que à un moment donné, j'étais dédié à ces formations. Et puis, mon positionnement a évolué dans l'établissement. Et il a fallu instaurer un système de régulation. Or, on voit bien que si ce n'est pas porté par les responsables de formation, eh bien, ça s'anime de manière... parfois, ça vivote. Parfois, ça continue à se développer de manière assez exponentielle. Mais je dirais qu'aujourd'hui, la vie de cette modélisation, elle est liée, en fait, au responsable de formation qui doit... finalement, le continuer à le décliner, à le déstructurer, à l'évaluer et à le mettre en mouvement.
Merci.